Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et bien sûr, on débrief l'actu avec ce soir Isabelle Bordry qui est avec nous. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Alors Isabelle, tu es cofondatrice de Retency, tu es ancienne directrice générale de Yahoo France, tu es dans le web depuis pas mal d'années. Et évidemment, tu as une culture sur ce sujet qui a beaucoup de valeur et on est ravis de t'accueillir ici pour justement commenter toute l'actualité.
Merci beaucoup.
C'est très sympa d'être là. Cédric Ingrand est là aussi. Salut Cédric.
François.
Directeur général de Heavyweight Studio, ancien journaliste chez LCI et d'une minute à l'autre, Salim Nassur devrait arriver.
Voilà. C'est tout ce qu'on lui souhaite.
Si son taxi ne s'est pas trompé de radio, j'espère qu'il n'est pas arrivé chez LCI ou CNews.
Sait-on jamais.
Sait-on jamais. En tous les cas, merci d'être là, vous qui nous écoutez. Sachez que tout à l'heure, on parlera de TikTok aussi, qui est dans le viseur de l'Union européenne avec cette appli. Un peu gonflé quand même de la part du TikTok, un TikTok Lite. C'est-à-dire que vous regardez des vidéos, vous êtes payé. C'est quand même un truc un peu fort de café. TikTok qui pourrait lancer aussi un clone d'Instagram qui s'appelle TikTok Note. On parlera aussi des déboires de Facebook, hein, qui a été retoqué par l'UE pour son abonnement sans pub. Vous le savez, hein, il y a quelques mois de cela, Facebook avait répondu à l'Union européenne « Ok, vous voulez en fait que les Européens n'aient pas de pub ? Ben, ça leur coûtera 10 euros. » Je crois que c'était 20 euros au départ.
Ouais, c'est cher.
Après, ils ont divisé par deux parce qu'ils se sont dit, bon, 20 euros, on va pas avoir grand monde. Enfin, l'idée, c'était justement de pas avoir grand monde hein, qui prenne cet abonnement. Et là, l'Union européenne a dit, non, c'est pas bon ça. 10 euros, c'est pas possible. On évoquera tout ça tout à l'heure. Mais pour débuter, donc, la robotique avec Boston Dynamics. Vous le savez, l'entreprise dans ce domaine qui est la plus avancée au monde. Hein. On a tous été éblouis par ces vidéos de ce robot capable de réaliser des saltos arrière ou même de ce chien, un Spot incroyable. Eh bien, Atlas revient dans une nouvelle version qui promet d'être encore plus incroyable. On écoute les explications d'Anthony Morel qui nous faisait un petit résumé ce matin dans Good Morning Business.
Nouvelle version a été dévoilée hier par Boston Dynamics. Elle est encore plus performante, encore plus incroyable. Alors, je vais décrire pour ceux qui nous écoutent. Effectivement, on le voit se relever, ce robot. C'est très bizarre. Il est allongé au sol et il se relève, mais alors avec des contorsions. Même un gymnaste professionnel fait pas
mieux
ça.
Mieux que les humains, quand même.
Mieux que les humains, très clairement. Alors, par rapport à l'ancienne version, je sais pas si vous vous en souvenez, il est un petit peu différent. Il est plus léger, plus épuré. Un peu moins effrayant aussi, moins anxiogène.
Les nouvelles têtes.
Oui, c'est ça. En fait, il me fait plus penser à un personnage de Pixar. Il a un peu le logo de Pixar, vous savez, la lampe, la tête. Il a une tête en forme de lampe, un petit peu, plus qu'à Terminator. Avant, c'était Terminator ou Star Wars. Maintenant, on est plus sur du Pixar, et c'est un enjeu aussi de rendre les robots moins effrayants. Alors après, ce qui est important, c'est ce qu'il est capable de faire. Visiblement, il est encore plus souple. Il a des degrés de liberté de mouvement supplémentaires par rapport à l'ancienne version. Il est complètement électrique et non plus hydraulique. Ça change pas mal la donne, ça fait moins de bruit notamment, et puis il a des articulations qui visiblement sont plus puissantes et plus fortes que celles d'un athlète professionnel. À quoi ça va lui servir tout ça ? Bah, peut-être pas à faire des galipettes, justement. C'est fini, les galipettes. Mais par contre, là où ça va être très intéressant, c'est dans les usines, par exemple. Ils nous disent, on a amusé la galerie avec nos robots, les vidéos sur Internet, mais maintenant, on voudrait un modèle économique avec des robots qui vont servir, qui pourraient être vendus à des industriels. Aujourd'hui, Boston Dynamics, ça appartient à Hyundai, grand groupe industriel coréen, donc on pourrait voir, par exemple, ces robots construire des voitures, pourquoi pas ?
Quel destin incroyable que cette boîte, hein, Boston Dynamics, Cédric, on les suit depuis des années.
Hein. Ah bah, c'est toujours au travers de ces petites vidéos. D'ailleurs, moi, ce que j'ai apprécié, en fait, c'est la nouvelle génération du robot Atlas. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont publié une espèce de meilleur du pire de ce que la génération précédente avait fait, avec toutes les chutes, les gamelles, c'est ça, les glissades, etc. etc. Ouais. Ce qui est assez rassurant, parce que souvent, c'était quand même rythmé par une ou deux vidéos par an, qui étaient toutes un peu plus flippantes les unes que les autres, avec ces espèces de chiens, où on se disait, il manque plus qu'une mitrailleuse et ça y est, c'est bon. C'est Terminator.
D'autant qu'il avait une espèce de truc sur la tête là qui faisait un peu peur, une espèce de caméra télescopique là.
Et c'est intéressant parce que l'efficacité de ce nouveau modèle, pour moi, tient au fait qu'ils se sont détachés d'un design humanoïde. Pas complètement détaché, il y a une tête, des bras, etc. Mais on le voit quand il bouge, il n'y a pas d'avant, d'arrière. C'est-à-dire que il va de manière absolument indifférente en avant, en arrière, il se retourne, il n'a plus besoin de faire le tour. Je trouve ça intelligemment fait, mais ça fait longtemps qu'ils font des choses intelligentes.
Ça fait un peu penser au robot de The Mandalorian. Ryan, tu sais, enfin,
Disney
Plus. C'est vraiment incroyable à croire qu'ils se sont inspirés de tout ça. Isabelle.
Moi, ce que je trouve absolument passionnant, c'est qu'on parle de robots depuis maintenant très longtemps. Et d'ailleurs, Boston Dynamics, c'est une société qui est née bien avant Google, ou au moins 10 ans avant. Je crois que c'est début des années 90. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu effectivement une innovation côté robot, on va dire, qui a eu une innovation côté digital, et aujourd'hui avec l'IA, les deux se retrouvent. Et effectivement, Nvidia, qui fait le lien entre le hardware et le software, permet aujourd'hui des avancées absolument incroyables.
Ouais, on va en parler.
Et il y a un enjeu, enjeu incroyable qui est, je pense, et les Japonais depuis très longtemps en fait travaillent sur les robots, parce qu'ils ont une population qui vieillit. Mmh. Et donc tout l'enjeu pour certains, c'est vraiment de trouver un compagnon pour aider les seniors à mieux vivre leur fin de vie. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement effectuer des tâches dans la vie quotidienne à la maison, ce qui est extrêmement difficile. Et puis effectivement travailler sur les méthodes de positionnement, de réponse et d'évolution entre l'homme-machine, de surveillance. Donc il y a des enjeux absolument colossaux, financiers, et des relations entre l'homme et la machine incroyables.
On va donner la parole à Salim dans un instant, mais Cédric, tu connais bien le Japon. C'est vrai qu'il y a une culture du robot là-bas qui n'a rien à voir avec la nôtre.
Non mais Isabelle le disait très bien, c'est juste qu'ils ont regardé l'évolution de la population sur 10, 20, 50, 60 ans, et ils se sont dit, un, on a une population qui
décroît,
vieillit, et puis qui décroît. Donc il y aura de moins en moins de gens pour s'occuper de plus en plus de personnes du troisième, mais là au-delà du quatrième âge et au-delà.
Et ils vivent longtemps, ces Japonais. Alors, c'est ça qui est terrible, ils ont une grande vie.
En plus, c'est ça. Évidemment, l'espérance de vie est terrible. Le problème, ils ne sont pas arrivés à quelque chose encore de très... Enfin, c'est ce que disait Isabelle. Ça fait combien de temps qu'on nous le promet? Moi, quand j'avais 9 ans, je lisais Science et Avenir, on disait, ça y est, le robot majordome arrive. Ouais. Je n'ose vous dire combien d'années c'était.
Aldébaran, tu te rappelles?
Oui, c'est ça.
Aldébaran aussi, pépite française de la robotique, avec Pepper, etc., qui a été, bon...
Ça reste des plateformes de développement,
trucs
de
tests. Ça a été un énorme succès.
C'est des robots censés former les prochains ingénieurs roboticiens. Mmh. Ouais, ça serait bien qu'à un moment, on arrive à faire le robot qui... Enfin, tu vois, c'est comme les chercheurs qui cherchent et les chercheurs qui trouvent, viens-toi. ça reste impressionnant. On n'en voit pas l'application. Parce que pour que ça marche, faut un robot qui sache monter les escaliers, donc ça peut pas être des roues. Enfin, à chaque fois, on bute sur un truc qui est le coût, parce que c'est évidemment très très cher. Et de moins en moins l'intelligence, la capacité à faire. Mmh. Et puis après, il faut quand même une finesse d'interaction pour savoir ceci est un chat, ceci est un chien, ne pas tuer, enfin tout ça.
Salim, est-ce que ça va être le truc qui va nous bluffer dans les 10 prochaines années, la robotique, ou comme le dit Cédric, ça va rester encore dans des livres de science-fiction?
Alors, je suis souvent en phase avec toi, Cédric, mais pas cette fois.
Ah bah oui. J'aime bien quand Salim n'est pas d'accord, les amis. Ça, j'adore ça.
Non, mais pourquoi? Parce qu'en fait, tu le disais tout à l'heure, Boston Dynamics existe depuis longtemps, et c'est vrai que, mais c'est rigolo parce que j'avais déjà raconté cette histoire. Moi, quand j'étais arrivé chez Google, ils avaient racheté Boston Dynamics d'un côté, et de l'autre côté, ils avaient racheté DeepMind. Donc, en effet, tu te dis, si tu mets une certaine intelligence artificielle sur un humanoïde,
tu mets un cerveau sur un moteur.
Voilà, ça donne ce qu'il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu l'as aujourd'hui dans Figure One, hein, de l'entreprise Figure One, c'est ChatGPT qui est dessus, et t'as un humanoïde qui est très crédible, même face à un Boston Dynamics.
Et Mentibot aussi, dont il nous a envoyé le lien tout à l'heure, on en parlera dans quelques
Mentibot,
instants.
Tu vois, justement, c'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec toi, c'est que eux, leur plan, c'est 2025. Côté Figure AI, c'est 2027. Et moi, j'y crois assez, en fait, parce qu'en fait, tu te rends compte que même Boston Dynamics, en fait, ils ont aujourd'hui complètement revu leur façon de penser. C'est pour ça qu'ils ont sorti un nouveau robot. Mmh. Et là où je te rejoins, c'est assez rigolo, la dernière vidéo qu'ils ont sortie. Moi, je vois ça plutôt comme un pot de départ d'un collègue.
C'est vrai,
je l'ai senti comme ça. Ils se sont dit, tiens, un pot, remémore les bons.
Tu sais, le pot de départ à la retraite.
Exactement. Mais c'est exactement.
Il manque plus la cagnotte Litchi, on est bon.
Non, mais c'est ça. C'était le pot de départ avec les bons moments, l'espèce de bêtisier. Et puis, il y a un nouveau collègue qui arrive. C'est ce nouveau modèle avec une interface qui est complètement nouvelle, avec une robotique qui est complètement nouvelle. Donc, moi, j'y crois beaucoup parce qu'en fait, quand tu regardes l'accélération qui s'est passée en 2 ans, en 2 ans, il n'y avait pas Figure One, si tu veux. Ils sont arrivés. En 2 ans, il n'y avait pas le robot Optimus de Tesla. Il est arrivé. En 2 ans, tu te parlais donc de Mentibot. Ils sont tous sortis en 2022. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que, avec le Covid, il y avait des choses qu'il fallait qu'on puisse faire sans homme. Et comme tu le disais,
et ça a accéléré
bien,
en fait la recherche.
Ça a accéléré en fait la recherche. Ouais. Ça a accéléré les financements. Qui dit financement dit plus de capacité. Mmh. Et effectivement, vous parliez d'Nvidia. Ben Nvidia est là pour power tout ça. Plus les modèles en fait aujourd'hui qu'on a. Moi, je trouve qu'on est vraiment une encablure. D'être quelque chose qui ressemble à.
Je sais pas ce que. J'ai l'impression que ça fait 40 ans qu'on est à une encablure. Ouais, pas mais, la même. Non, je suis d'accord.
Tu sais ce que j'ai dit. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je vais dire la même chose que Salim. Mais là, je rejoins Salim.
Il y a des trucs. Cher ce soir.
Non.
Mais non, t'aimes.
Jamais. Qui aime bien, châtie bien, mon petit Cédric Counet.
Mais châtie même pas. Mais non, mais regarde, parce que le jour, j'intervenais dans une entreprise, je vais pas la nommer. Et le PDG me dit. Non, mais attends. S'il avait fallu faire 20% de productivité, non, je ne nommerai pas le nom. S'il avait fallu faire 20% de productivité dans mon secteur d'activité, je l'aurais fait depuis bien longtemps. Mm-hmm. C'est exactement ce que tu dis. Et je lui dis, t'as raison, moi, mon père était cheminot, et on faisait Paris-Marseille en 10-11 heures, pendant des années. Et un jour, ils ont inventé le TGV. Et je dis, tu peux continuer à prendre ton train, la Micheline, ou tu peux prendre le TGV. Et là, on est en train d'être sur la voie du TGV, où ça va beaucoup plus vite. Il y a une accélération. Ouais. Et si on ne le voit pas, c'est juste pas possible. Il y a une accélération qui est hallucinante. Ouais, et ça va aller de plus en plus vite. Ouais. Et en plus, comme il y a cette compétition, moi, je te dis, dans les 5 prochaines années, t'as un robot chez toi.
Et la rupture technologique, je crois vraiment, vient du fait que le hardware a progressé en même temps que la capacité machine et les softwares ont progressé. Et donc, effectivement, les deux se rejoignent et donnent des capacités absolument énormes de capacité à se positionner, à faire des gestes beaucoup plus sophistiqués. Et en plus, il y a des besoins réels.
Parce que c'est vrai qu'il y a deux types de robots aujourd'hui. Il y a Boston Dynamics, les démos sont toujours assez bluffantes, mais ce sont des démos scriptées. C'est-à-dire que le robot, il a été programmé pour faire un trip salto arrière, monter des escaliers.
Pas celui-ci.
Lequel ?
Le nouveau, là, celui que tu as derrière toi.
Non, mais je parle des précédents, qui étaient avec un fonctionnement hydraulique, etc., qui était d'ailleurs bluffant de réalisme. Plus peut-être que les électriques, d'ailleurs, c'est dingue. On se rend compte que la technologie hydraulique permet peut-être d'avoir plus de gestes ou plus d'agilité que l'électrique. Là, celui-ci, je le trouve un peu... Tu vois, on a l'impression qu'il a fait 4 heures de sport et qu'il vient de se lever sans s'échauffer, quoi.
C'est le 0-0-1.
C'est le 0-0.
Quand tu prends l'exponentialité de la technologie, tu sais que quand tu vas être 10, mais il va passer pour un grand-père à côté. Ouais, c'est ça, en fait, il ne faut jamais perdre d'esprit. Et c'est toujours ce que j'explique, c'est qu'il y a une exponentialité et le cerveau humain n'est pas prêt pour avoir cette exponentialité. On pense linéaire. C'est exponentiel.
Mais c'est vrai que Boston Dynamics ne communique pas trop sur l'apport de l'intelligence artificielle dans ses robots. Pas comme Figure.ai ou pas comme Mentibot. Je ne sais pas si on a une petite démo qu'on pourrait vous montrer parce que c'est quand même assez impressionnant. Hein. Il y a une demoiselle qui est là, qui demande à ce robot d'aller à la cuisine. Et le robot part, va tout seul à la cuisine, se pose devant une table. Il a des pommes. Elle lui dit, tu prends ces pommes et tu les mets dans un petit bac. Il prend les pommes. Et alors, c'est rigolo parce qu'on voit le script informatique à côté. Mm-hmm. Il comprend tout ce qu'il dit. Et c'est ChatGPT, simplement. Il prend les pommes, il les met dans le bac et puis après, il va ranger le bac. Mais ça, c'est aujourd'hui. Et c'est un truc... Alors, évidemment, ils ont fait peut-être 50 fois la démo parce que ça marche pas toujours, etc. Mais c'est vrai que dans 5 ans, on peut peut-être imaginer des usages. Et c'est ce que dit Elon Musk.
Mais avant 5 ans.
Elon Musk, avec Optimus, dit que dans 5 ans, ce robot coûtera $20,000 et il pourra pallier à des tâches domestiques.
Figure One, ils ont déjà signé un contrat avec Mercedes pour qu'il soit sur le point de production, c'est pour faire le dernier
mile. C'est BMW.
Mais en réalité, si tu veux, tu parles de Boston Dynamics, moi, ils sont très forts en communication. Donc, je m'attends à ce qu'ils me communiquent justement avec des super vidéos sur ce nouveau robot. Et notamment, je ne sais pas si tu as suivi, mais le fondateur de Boston Dynamics a créé cette division à côté, justement, qui est là pour travailler sur le couplage de l'intelligence artificielle avec tout leur savoir-faire. Et là, ça devient quelque chose qui est très très fort. Donc, moi, je pense qu'ils vont communiquer là dans les semaines, mois qui viennent sur ce nouveau robot.
Et ce qui est effectivement vraiment passionnant, c'est qu'on n'est plus du tout au stade à aider dans l'industrie des tâches qui sont toujours les mêmes. On est sur une agilité et une flexibilité que l'on n'a pour l'instant jamais vue et qui va clairement se démultiplier, et c'est ça la rupture technologique.
C'est amusant parce que tout à coup, c'est quelque chose qui est dopé par, l'explosion du besoin en processeur de l'intelligence artificielle, et puis ces robots, ils sont dopés aussi par tout ce qu'on a investi en milliards de dollars de R&D dans tous les capteurs qu'on a dans nos smartphones.
C'est ça.
Et qu'on fait s'effondrer les prix de tous les capteurs de mouvement, de position, etc., etc. Ce qui fait que ces robots ont, là aussi, il y a une exponentialité dans le nombre de capteurs qu'on peut y mettre, ce qui leur donne plus d'équilibre, plus de vitesse, plus de fiabilité, etc.
On a convaincu Cédric.
numérique.
Non mais c'est pas ça. Je suis pas convaincu.
Technologique.
Je suis pas convaincu. J'en ai juste marre d'attendre.
Non mais c'est clair. Tu vas voir le master plan de. Tu vas voir sur le site de Figure AI. Ils ont tout écrit dans leur master plan et j'aime bien en fait parce que comme OpenAI, ils ont écrit un master plan. Et tu vois la roadmap. Notamment, et c'est ce que tu disais, il y a un vieillissement de la population et il y a surtout des tâches que les humains ne veulent plus faire.
Oui.
Et donc, eux, leur plan, c'est de... En fait, ils ont fait le calcul. Aux États-Unis, il y a, alors, je ne sais plus, X centaines de milliers de jobs qui ne sont pas pourvus parce que soit ces gens n'ont pas envie, soit ils ne trouvent pas la main-d'œuvre. Donc, ils se sont dit, on va créer cette main-d'œuvre pour pouvoir pallier à ce manque.
Ouais.
Alors, jusqu'au jour où on palliera à d'autres types de manques. Et c'est là où il faut trouver la bonne frontière entre l'homme et la machine. En fait.
Mais je me souviens, à Viva Technologies, il y a 2 ou 3 ans, il y avait effectivement ce petit robot que je trouvais très mignon d'Alba Dérange, avec SoftBank derrière, qui en fait c'était de la relation client. C'était de l'accueil client en magasin. Mais Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ?
Il était un peu bête hein, quand même, le Aldébaran.
C'était Siri, quoi.
C'est ça. Mais l'idée...
C'est pas sympa.
L'idée était là. C'était de proposer en fait, une relation client.
Parce qu'il n'y avait pas cette brique que tu expliquais, que tu mettais en avant sur l'IA.
Voilà. Et qui apporte de l'agilité et de la réflexion, si on peut l'appeler comme ça.
Mais moi, je me dis que... alors, c'est rigolo parce que tu évoquais que les Japonais imagine un petit peu l'assistant des personnes âgées à la maison. Mm-hmm. Mais c'est clair, ça va être ça. En fait, il y a tellement de gens qui se retrouvent seuls, sans personne à qui parler. Demain, tu as un robot qui a de l'empathie, parce que ChatGPT, ça a de l'empathie, qui va vous écouter pendant des heures sans faire « j'en ai marre », il radote toujours, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on vit, parce qu'on a des anciens autour de nous. Mm-hmm. Imaginez un peu la puissance de ce truc-là.
Alors, c'est à la fois puissant et à la fois un petit peu... ça fait un peu peur, en réalité. Parce que tu vois, on le voit déjà aujourd'hui, il y a déjà, alors, beaucoup en Asie, et particulièrement en Japon, t'as raison, déjà des systèmes qui te permettent d'accompagner, mais pas que les seniors, hein, parce qu'il y a les seniors qui sont accompagnés, mais il y a aussi Replica, dont je parle souvent, où même les adolescents, aujourd'hui, ils ont une conversation avec une IA, si tu veux. Donc c'est bien, quand tu te sens seul, l'effet de bord, c'est que tu as tendance à aussi t'isoler. Parce que cette machine, elle te comprend bien. Comme tu dis, elle ne va pas faire...
Mais c'est clair.
Et donc tu vas rester de plus en plus avec cette machine, de moins en moins avec tes semblables. Voilà, c'est toujours.
Mais après, on disait ça de la télévision, on a dit ça d'internet, des écrans. Oui, absolument. Mais maintenant, avec le téléphone, on peut avoir le fait de parler à quelqu'un qui n'est pas à côté de soi. Déjà, c'était une révolution.
Oui, bien sûr. Mmh.
Donc, je pense que il faut être optimiste dans tout ce qui est innovation. Et il y a clairement une place auprès des seniors en termes de sécurité, même physique, d'accompagnement dans la vie quotidienne, non seulement de discuter, mais surtout de débarrasser la table, d'apporter les médicaments à l'heure dite.
Le repassage, s'il vous plaît.
On
va dire des exercices cognitifs. Enfin, c'est incroyable ce qu'on peut imaginer.
S'assurer des prises de médicaments.
Et tu dis que ça fait peur, mais moi je suis pas d'accord. Je pense que vraiment. Ça va être un compagnon. Aujourd'hui, on a tous des personnes âgées autour de nous. Qu'est-ce qui se passe quand ils vieillissent? Souvent, ils se retrouvent seuls et ils ont un chien. Ok. Non, mais c'est vrai.
Ouais, ouais.
C'est comme ça. C'est pas triste. C'est comme ça. C'est la vie. Demain, tu as un vrai individu qui va avoir une capacité à connaître le monde entier et qui va peut-être pouvoir t'informer sur plein de sujets, avoir une discussion avec toi, t'aider peut-être sur certaines tâches. C'est pas pour tout de suite. Mais quand ça arrivera, ça sera quand même une petite révolution.
C'est normal. C'est la vie. Je mets un bémol en fait. Et c'est pour ça qu'en fait,
les personnes âgées se retrouvent seules, malheureusement.
Dans une société occidentale, si tu veux, dans la culture, dans d'autres cultures, dans une culture asiatique, dans une culture parfois africaine, les anciens sont avec leurs enfants. Donc c'est dans cette culture un petit peu très individualiste dans laquelle on est que tu as tendance à te dire il va s'occuper avec le chien et demain il va s'occuper avec un robot. Est-ce que quelque part ça te dédouane pas toi de t'occuper aussi
Non, je pense que...
Mais juste pour finir là-dessus, encore une fois, c'est pas que je sois négatif, je suis plutôt très technophile et positif. En revanche, il faut pas qu'on fasse la même bêtise qu'avec les portables. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aux gens ce qu'est une interaction avec la machine. Il faut faire de l'éducation et pas juste dire qu'on met ça dans les ménages ou qu'on met ça dans les entreprises, etc. C'est là, en fait, moi, où je mets un petit bémol en disant on va encore une fois libérer une technologie et pas dans 10 ans avant.
Et faire une nounou numérique de plus.
Et voilà. Ouais. Et là, tu te dis, c'est un danger potentiel parce qu'on a vu les dangers des réseaux sociaux, on a vu les dangers des écrans. Donc, ne refaisons pas les mêmes bêtises, si tu veux. Éduquons la population petit à petit, c'est tout. Et après, c'est évidemment, il y a plein de façons de l'utiliser de façon positive.
Oui, non, je suis complètement d'accord. C'est pas ça qui va sauver les seniors de toute difficulté et qui va leur créer des relations sociales. Mais si effectivement ça permet d'accompagner pour mieux vieillir, c'est bien.
Bien sûr.
Après, il y a énormément de réflexions qui sont autour de vivre ensemble, de créer des communautés avec des étudiants et des seniors. Et tout ça, je l'espère, continuera. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites en ce sens. Donc c'est juste un accompagnement. Il y a un accompagnement qui peut aider dans certains cas et il faut effectivement trouver la juste place.
Je suis pour. Hein.
Absolument.
Faut pas croire.
Je suis d'accord.
Voilà pour ce sujet robotique qui, évidemment, alimente nos fantasmes, notre imaginaire et on en reparlera, bien sûr. Tiens, autre truc impressionnant que vous avez peut-être vu, en tout cas, on va vous le présenter si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est Microsoft qui a sorti un truc incroyable, une IA qui, à partir d'une photo et d'un vocal, eh bien, vous crée une vidéo. On se dit, bon, d'accord, on a tous vu sur Instagram les petits bébés qui chantent et tout. Bon, d'un coup, ils sont transformés en monstres tellement c'est raté. Là, si vous êtes avec nous à la télé, on vous montre des images. Vous voyez, ces vidéos-là n'existent pas. En fait, elles sont fabriquées à partir d'une photo, simplement une photo. Et donc, l'IA se débrouille. Et arrive à recréer en fait toutes les expressions du visage, le phrasé, les clignements d'œil, les cheveux qui bougent, la tête qui bouge. C'est quand même incroyable. Et imaginez donc, vous dictez une phrase, vous envoyez une photo et vous avez une vidéo qui se fait.
Alors, c'est dingue. C'est dingue parce qu'en plus,
je trouve ça arrive. C'est incroyable.
Il y a des choses que tu n'as pas citées, c'est-à-dire que toutes les choses qui font que tu ne crois pas à une vidéo quand tu la regardes, ils les ont réglées. Regarde le mouvement des cheveux tout à coup. Même si c'est très léger, même si tu t'évites ce côté Playmobil, tu sais, où les cheveux bougent en même temps que la tête, c'est impressionnant. Ils le font à la fois sur des photos, sur des dessins, sur la Joconde, sur... C'est chaud. Alors c'est chaud. Il faut dire que c'est pas disponible. C'est encore un outil qui sort du labo.
C'est une démo technologique.
Une démo, c'est pas un produit. N'allez pas chercher chez Microsoft.
Là, cette pauvre Joconde là qui chante ou je sais pas ce qu'elle fait, mais enfin c'est quand même assez impressionnant.
Je trouve que
c'est moins impressionnant sur la Joconde que sur un humain. En fait.
Oui. Parce que t'as l'impression que c'est un dessin animé, en fait.
Oui, c'est ça.
Mais là où je te rejoins complètement, c'est... déjà, et c'est encore une fois, on revient à cette exponentialité. Il y a même pas un an, on se disait, mais Agent, c'est juste dingue. Parce que, tu vois, je sais pas si vous avez fait votre avatar. Moi, j'ai déjà fait mon avatar depuis un moment. Et tu uploads une vidéo de toi de 2 minutes. Et après, c'est comme si c'est toi qui parlais. C'est-à-dire que tu mets le texte que tu veux, tu peux être sur la plage, mais t'es dans le... Ça ne pourrait ne pas être toi ici, François. Et déjà, 2 minutes de vidéo pour reproduire tout ce que tu voulais, c'était incroyable. Et c'était il y a moins d'un an. Et là, aujourd'hui, tu mets juste une photo, tu reproduis la même chose.
C'est incroyable.
Mais c'est pour ça que dans 10 ans, on en reparlera des robots.
Et le même Heijen prend ta vidéo sans les 2 heures ou 2 minutes ou etc. d'échantillon et te la fait traduire, te la fait doubler dans une autre langue.
Avec les
synchronisations labiales.
Mais avec la vraie tessiture de ta voix. C'est
et alors moi, ce que je trouve assez terrible là pour le coup, c'est le sourcing de l'information. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre une
photo. Alors là, ça va être un carnage.
D'un homme politique ou d'une femme politique et lui faire dire tout ce qu'on veut de manière tout à fait réaliste. Donc toute cette notion qui est derrière, qui est le sourcing de l'information, la fracture de l'information, l'éducation des enfants, l'éducation des adultes, pour essayer de comprendre non seulement comment les utiliser, mais comment les décrypter, va devenir un enjeu.
Le plus grand danger, à mon sens, c'est pas tant qu'on se retrouve face à des faux contenus. C'est que l'abondance et la simplicité et l'efficacité de tous ces faux contenus fassent qu'on ne croit plus à la vérité.
C'est ça.
En fait, on ne croit plus à rien.
C'est-à-dire qu'on dira, mais c'est une fausse vidéo.
On dira, attends, ça,
dès que tu dis un truc un petit peu, voilà.
Et on n'a pas attendu ça hein, pour ne pas croire à des images ou pour entendre des gens qui ne croient pas à des images, etc. Même quand elles étaient bien réelles. Du fait de la puissance de ces outils, tout à coup, il va être de plus en plus difficile de prouver que quelque chose est vrai. Et ça, c'est presque un danger démocratique. Hein.
C'est complètement un danger démocratique parce que c'est les sous-jacents du complotisme. En fait.
Évidemment.
On nous le dit pas à la télé, on nous le cache. Mais effectivement, d'autres sources alternatives. Mais moi, j'ai la preuve parce que j'ai vu cette vidéo qui est forcément vraie. Et donc, ça va vraiment poser un enjeu, je pense, démocratique.
On en revient à un sujet d'éducation, encore une fois. Et un des points clés à pousser, mais pas que pour les jeunes, mais pour tout le monde, c'est l'esprit critique. Comment tu travailles ton esprit critique par rapport à ça? Comment tu apprends à faire du fact-checking, finalement? Comment tu apprends à aller à la source? Et c'est ce que tu apprends dans certaines écoles, des écoles de guerre économique, par exemple, mais ça devrait être généralisé pour toute la population. Comment je sais déceler le faux et du faux? Et même ça, comme on l'a dit, ça va devenir de plus en plus compliqué.
Exactement. Après, donc, ça va demander un niveau de plus en plus élevé, des compétences, etc. Donc... ça va être très très...
Après, il faudrait que les plateformes jouent le jeu et qu'elles indiquent que c'est des IA. Elles le font déjà un peu.
Certaines le font déjà.
Je crois que ça fait partie de l'IA Act aussi. Hein.
Bien sûr. Tu vois, quand j'ai dit que c'était une bonne chose, l'IA Act, et tout le monde dit non, c'est pas bien.
L'IA Act est essentiel. Moi, je suis complètement...
Merci.
C'est essentiel.
Voilà.
Merci comme beaucoup. Le RGPD. C'est essentiel.
L'autre jour, ils étaient tous contre moi. Mais
non,
ils
n'étaient pas tous contre toi.
Alors, toi, tu étais plus mitigé, mais les deux autres...
Ah ben après, c'est ça qui est intéressant. On peut ne pas être d'accord avec toi.
Mais complètement. Mais on va se rendre compte petit à petit que mettre des guidelines au niveau de l'IA, c'est pas important, c'est juste essentiel. On est d'accord.
Absolument.
Parce que sinon,
essentiel.
On va arriver dans des travers. Et là, effectivement, avec ça, on va pouvoir dire aux plateformes, non, là, c'est hors jeu. Donc, ce sera à elles de faire le travail de
Et alors, en fait, ce qui est absolument essentiel, c'est que dans l'innovation, ces principes de base de respect des libertés publiques soient intégrés. Et en fait, c'est très compliqué de les intégrer après. Donc, ceux qui disent ça va bloquer l'innovation... Je suis absolument contre ça. C'est faux. Au contraire, ça va booster l'innovation. Et aujourd'hui, par exemple, et je fais partie de... on a monté une société qui permet d'anonymiser la donnée, mais ça n'aurait jamais été fait aux États-Unis. Et aujourd'hui, on a des solutions algorithmiques qui permettent effectivement de protéger et d'assurer un anonymat complet d'une base de données. Si vous n'avez pas ces principes au départ, l'innovation se fait à côté.
Après, il faut que, évidemment, tout le monde respecte cette régulation, parce qu'on peut très facilement, en deux clics, faire une vidéo, un deepfake, et ne pas ajouter qu'elle est faite par l'IA.
Oui, mais tu peux aussi rouler à 200 sur le périph, et le jour où tu te fais attraper,
c'est le code de la route.
Ça va
c'est
pas,
exactement comme le code de la
bien
route.
Bien sûr, mais ça ne va pas éradiquer, évidemment,
mais
les deepfakes.
Mais ça va
diminuer. C'est vrai.
Et puis, quand tu vas prendre 4 milliards de pénalités, tu y penseras deux fois.
Ah oui, 3 milliards, ça fait beaucoup quand même.
Pour un grand groupe, c'est pas tant que ça finalement, mais ça pique.